Bienheureux ceux qui ont l'esprit de pauvreté, parce que le royaume des cieux est à eux. Bienheureux les pauvres. Bienheureux ceux qui sont doux, car ils posséderont la terre. Bienheureux ceux qui ont faim et soif de la justice, parce qu'ils seront rassasiés. Oui, vous qui pleurez maintenant, vous êtes bienheureux, car vous serez dans la joie. Et vous qui maintenant êtes affamés, vous êtes bienheureux, car vous serez rassasiés. Bienheureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Bienheureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Bienheureux les pacifiques, car ils seront appelés enfants de Dieu. Bienheureux ceux qui souffrent persécution pour la justice, parce que le royaume des cieux est à eux. Bienheureux, vous serez heureux lorsque les hommes vous haïront, vous maudiront et vous persécuteront, lorsqu'ils vous sépareront de leurs assemblées, de leurs sociétés, et qu'ils vous chargeront d'opprobre, lorsqu'ils proscriront votre nom comme funeste à cause du Fils de l'homme, et qu'ils diront mensongèrement toutes sortes de mal contre vous à cause de moi. Réjouissez-vous en ce jour et tressaillez de joie, car votre récompense sera grande dans les cieux. C'est ainsi que leurs pères ont persécuté les prophètes qui furent avant vous. Le disciple n'est pas au-dessus du maître. Quiconque ressemblera au maître sera parfait. Alors, voyez-vous, on se dit, mais c'est un peu, c'est très riche. Parce que, en fait, ce bonheur est attribué à ceux qui sont pauvres. C'est-à-dire qui ne sont pas riches et qui n'ont pas non plus le désir des richesses. Donc un riche peut être pauvre et ne pas être attaché à son argent. Avoir de l'argent et ne cesser de l'utiliser pour le bien et être indifférent à en avoir ou à ne pas en avoir, du moment qu'il vit honnêtement et dans la justice. Et alors on est bien heureux. Alors que l'homme est très inquiet de sa, si vous voulez, de ses réserves d'argent. C'est pour ça que le vœu de pauvreté consiste à ne pas avoir de réserve d'argent et de compter sur la communauté. C'est impressionnant. Ce sont les moines, ce sont les moniales, et ça marche, et même encore maintenant. Et ce qui est étonnant, vous voyez, c'est que beaucoup de personnes qui sont dans la gêne actuellement vivraient très bien dans un couvent ou dans un monastère. Seulement, ce n'est pas pour ça qu'on y va, c'est sûr. Mais, voilà, ce vœu de pauvreté est ici aussi. Mais quand le Christ dit à un riche, « Vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres et suis-moi. » C'est pour ça que les prêtres, les évêques, les cardinaux, s'ils sont trop riches, voyez, vont scandaliser les fidèles. C'est évident. Alors, vous avez eu des évêques très riches, de grandes familles, et qui n'avaient pas forcément, justement, toute la richesse de leur famille. Ils avaient des revenus, mais comme parfois cadets d'une famille noble, ils n'avaient ni le château, ni les terres. Mais ils étaient d'une famille noble et avaient l'habitude de mener un train, peu modeste, pour certains. Eh bien, à eux de discerner si ce qu'ils font est utile et bon. Oui. Aux États-Unis, un prêtre doit avoir une belle voiture, car il doit montrer que Dieu le bénit. Pourquoi ? Mais parce que c'est l'influence de toute une spiritualité protestante, un prêtre catholique. on ne comprendrait pas que le curé d'une paroisse américaine ait une voiture ordinaire. Alors bien sûr, certains prêtres vont lutter contre cet état d'esprit très anglo-saxon. Mais si vous voulez, c'est leur culture. Et leur cohabitation avec les protestants les pousse encore plus à cela. Mais bon, un franciscain américain catholique va vivre pauvrement. Tout américain qu'il est. Mais peut-être que, si vous voulez, après le Concile Vatican II, on va faire une piscine dans le couvent. Pour la bonne santé et le sport des... Comme à Rome, on a fait une piscine dans le monastère de la maison généraliste des bénédictins. C'est... une salle de sport et une piscine dans le monastère bénédictin du père abbé général de l'ordre bénédictin. C'est ridicule. Mais si vous voulez, si moi j'avais été à Rome, et comme cette piscine était accessible, elle n'est pas toujours totalement entretenue, il y avait les années folles, quoi, les années 70-80, on a fait une piscine. Saint-Benoît, comment dire, s'est retourné sur son nuage. Et que son corps dans la tombe. Hein. Bienheureux les pauvres. Bienheureux ceux qui sont doux. Alors là, ça vient en deuxième en plus. Hein. La douceur. Alors vous allez me dire, avec mon tempérament, je ne serai jamais heureux. Et ben, disons que vous ne posséderez pas la terre. Vous n'allez pas conquérir les âmes comme quelqu'un qui peut être doux. Mais voilà, il faut tout pour faire un monde, semble-t-il aussi. Et c'est une très grande vertu que la véritable douceur. Je ne parle pas de la mièvrerie, hein, mais la douceur. Par rapport à la colère, bienheureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Alors il y a plusieurs origines du pleur. On peut pleurer sur nous-mêmes, on peut pleurer sur les autres. Vous voyez ? Le commentaire est très joli, hein, mais vous voyez, on peut pleurer sur les malheurs des temps, on peut pleurer sur la... Là, j'ai déjeuné avec un député aujourd'hui, le député de la circonscription, en tant que curé de Saint-Eugène. Je ne suis pas allé, démarcher des députés pour me faire connaître et devenir évêque. Donc, quand j'ai été nommé curé... très poliment, le député de la circonscription a répondu à mon invitation à venir à l'installation, ce qui se fait dans la courtoisie civile. Et on a fini par manger ensemble, mais lui disait « la guerre civile est à nos portes, elle est là, c'est certain ». Alors c'est une posture, certainement. C'est impressionnant de voir un des 500 et quelques députés de me dire « c'est la guerre civile ». Bon. Et donc on peut pleurer d'entendre des choses pareilles, de manière aussi certaine, et comme s'il était... Mais si vous voulez, on peut être triste comme le mercredi matin sur le marché de dire « ah oh, !» Mon temps, c'était bien mieux, Madame Michu, tout est fichu. Mais il est vrai qu'on peut actuellement pleurer d'une manière particulière, étant donné la décadence qui touche les enfants. On n'avait jamais proposé à un enfant, il y a encore 50 ans, ni il y a 500 ans, ni il y a 3000 ans, s'il voulait être une fille ou un garçon. Or, vous avez au Canada, en Catalogne, je ne sais plus dans quel pays... vous avez des formulaires où il vous dit « Es-tu un garçon, une fille, ni l'un ni l'autre ?» Mais Madame Belkacem s'est signalée de manière toute particulière en disant que ça n'existait pas. Alors on peut pleurer toutes ces situations, de dire que c'est fini, on va avoir la guerre civile. et que l'islam est épouvantable et on va tous mourir, oui, mais à quel moment on va justement présenter à des croyants d'Arabie que ils croient en Dieu, mais que Dieu, comment dire, est plus que le Tout-Puissant et il est notre Père, et que ce n'est pas un engendrement physiologique que son Verbe, mais un engendrement éternel et spirituel, et que sa parole s'est faite homme, et que ce n'est pas une trois dieux, mais un Dieu d'amour, Père, Fils et Saint-Esprit. Et donc, avoir ce zèle et cet amour pour que les gens connaissent mieux Dieu par rapport à la religion qu'ils ont reçue dans leur enfance et qui n'est pas la révélation du vrai Dieu. Et le dire avec le plus de délicatesse possible pour ne pas les blesser, mais pour les amener à être bienheureux. Bienheureux ceux qui ont faim et soif de la justice, parce qu'ils seront rassasiés. Hein. Ça, c'est pour le prophète Élie. Hein. Là, c'est la justice. Hein. C'est pas la miséricorde. Hein. Quand quelqu'un fait le mal, il faut qu'il répare. Et qu'il répare pour le mal qu'il a fait et qu'il soit puni. Vous voyez, c'est la maîtresse qui veut donner une mauvaise note à la mauvaise copie. C'est tout. Qui va être très douce avec un enfant qui a du mal, mais qui fait plein d'efforts, et qui a 8 sur 20, et qui va être très dure et pleine de reproches avec quelqu'un totalement négligent, qui a d'habitude de 12, 13, et qui là a eu 5 parce qu'il a encore. Il n'a absolument rien fait cette fois-ci. Mais ça, c'est la justice. C'est le zèle pour la justice. De voler, de mentir, de provoquer de la zizanie dans une famille, des querelles d'héritage. Vous voyez, la dispute inutile, la séparation. Alors, si vous voulez, c'est une béatitude, celle-ci est forte. Ensuite, vous voyez, le Christ commente. Hein, il dit, vous pleurez maintenant, vous serez dans la joie. Vous êtes affamé maintenant, vous voyez plein d'injustices autour de vous, et vous serez rassasié. Voyez, ceux qui sont dans un camp de concentration et qui voient ensuite ce camp libéré et leurs anciens geôliers arrêtés, eh ben c'est bon. On va dire, oui, mais il ne faut pas qu'ils se réjouissent, qu'ils soient pendus, les anciens geôliers. C'est justice. C'est la peine de mort, en droit naturel, c'est une protection de la société. Et l'Église nous dit, cette protection de la société doit être, comment dire, proportionnée au danger. Si on peut écarter le danger et réparer la justice autrement que par la peine de mort, on doit. Mais voyez-vous, je prends toujours cet exemple, vous avez en pleine guerre un soldat qui viole et tue une petite fille, le lieutenant prend deux sergents, le juge, on n'a pas le temps, on est en pleine bataille, on ne peut pas le faire prisonnier, là, on le met contre un mur et blablam. C'est tout. C'est une justice un peu expéditive, mais vu les circonstances, on ne peut pas faire autrement. Voyez? Vous voyez, mais c'est pas possible, il faut qu'il ait un avocat et tout. Enfin, oui, mais il y a eu toute la famille témoin, un des soldats est arrivé, l'a arraché. Comment dire, c'est lui qui l'a arrêté en flagrant délit. Enfin voilà, donc on fait un jugement rapide et puis on le fusille. Oui, ça s'appelle la peine de mort au ras des pâquerettes. Oui. Mais c'est une vraie peine de mort, c'est-à-dire que c'est après le délit. La légitime défense est une peine de mort sur le coup. Hein. Vous voyez. Et donc, par exemple, ceux qui étaient dans la voiture. Dont on a cassé les vitres, on a mis des cocktails Molotov à l'intérieur, eh bien, la société est malade, qu'il n'ait pas pu tirer, pas forcément pour tuer, hein, mais tirer sur les assaillants. Enfin, normalement, là, il meurt pas, mais le bonhomme, il est brûlé au troisième degré. C'est invraisemblable qu'ils aient pas sorti leur arme. Enfin, c'est qu'il y a quelque chose qui va pas du tout. Il dit, ah, alors quoi, vous êtes prêtre et vous voudriez qu'ils aient sorti leur arme? Oui, oui. Les gens qui ont fait ça voulaient les tuer. Voulaient les brûler vifs. Donc, ah oui, mais il faut être miséricordieux, il faut pardonner. Mais non, c'est injuste. Alors justement, bienheureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. C'est sûr que le policier qui est là et qui voit ce pauvre homme sans éducation lui jeter la cocktail Molotov et dit « Je vais le laisser vivre un peu plus longtemps pour qu'il se puisse se convertir, Seigneur Jésus, je prie pour lui et je meurs en priant pour lui. » Ah, c'est sûr qu'il lui fait miséricorde. La cocktail Molotov arrive sur ses genoux, il est brûlé et il meurt, alors qu'il a son arme sur le côté. Il va directement au ciel. Hein. S'il est dans ses dispositions, s'il ne tire pas parce qu'il a miséricorde de ce pauvre type qui est en train de le tuer, c'est vraiment... Seulement, voyez-vous, attention, hein, les soldats, l'objection de conscience par rapport à la défense d'un pays, c'est bien gentil qu'un homme soit là et dit « Je ne veux pas tirer sur ceux qui attaquent ma ville natale parce que... je veux qu'ils aient l'occasion de se convertir. » Ils sont là. Mais qu'il faut aussi que la femme, les enfants, les vieillards, tout le monde soit dans ces dispositions merveilleuses, parce qu'ils vont tous se faire trucider. Donc, c'est injuste, hein, quand même. Hein. C'est un péché, hein, de tuer. C'est pas parce que le pécheur peut se convertir que du coup, il ne pêche pas pendant qu'il pêche. Excusez-moi de dire des choses évidentes, mais c'est très important ce que je vous dis là. C'est pas parce que quelqu'un peut se convertir qu'il ne pêche pas au moment où il pêche. Enfin, ou alors les mots n'ont plus aucun sens. La miséricorde, c'est est liée à renvoyer à Dieu le temps du pardon pour cet homme, le temps du regret et du pardon. Donc on demande à Dieu qu'il ait la grâce de regretter et d'être pardonné et de se sauver. Mais la miséricorde n'est pas pour un tueur à gages. Vous voyez, Seigneur, je pardonne à ce tueur à gages. Voilà. Mais il a un beau métier, finalement. C'est un art. S'il ne fait pas souffrir, c'est beau, non, c'est bien. Non, ben, voilà. C'est un péché, c'est un péché. Oui. Vous avez un tueur à gages de la mafia qui a tué 42 personnes. Le 42e était un prêtre, je crois. Enfin, je me trompe peut-être sur le chiffre, mais c'est vraiment pas loin. Et il s'est converti parce que il a tué ce prêtre. Et ce prêtre, quand il a senti le canon du revolver, il a dit « Je le savais ». Et il a souri. Il n'avait pas peur de la mort. Il était préparé. Et quand il est tombé, il restait souriant. Et le tueur à gages a vu le visage de ce prêtre qui était paisible et souriant, dans une paix incroyable. Eh bien, ça l'a hanté. Et quand il a été, arrêté, il disait quand il dormait, il pensait toujours à ce visage de ce prêtre. Donc il a fait seulement 10 ans de prison, hein. Vous savez, on est en Europe, hein. Quelqu'un qui tue 40 personnes, c'est une maladie, mais il ne savait pas. Au bout de 10-12 ans, il a été libéré. Et il n'y a pas de peine de mort en Italie, apparemment. Et donc, il s'est rangé des voitures, hein. Il vit très paisiblement. Et il a été présent à la canonisation de celui qui l'a tué. Vous voyez, mais ça, c'est très, très catholique, c'est sûr. Vous voyez, c'est très profondément catholique. Waouh ! Bienheureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Bienheureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Qu'est-ce que c'est que la vertu de pureté? Ben, c'est de lutter contre une sensualité déréglée, qui est due aussi au péché originel. Et vous avez des personnes qui peuvent très bien être tourmentées au point de vue de la sensualité, mais qui, dans une lutte pied à pied, ont un désir de pureté et même une certaine pureté. Et puis vous avez des personnes qui, ont une pureté par grâce, entretenue, sans obstacle à cette grâce. Des personnes qui obtiennent ces puretés, comme Sainte Marie-Madeleine, qui était une prostituée. Et ceux qui se battent pour leur pureté alors qu'ils ont de nombreuses chutes. On pense toujours à tel ou tel cas de nos jours, mais prenons le cas d'un homme marié qui est très sensible à la beauté féminine et qui se trouve à 60 ans avec son épouse qu'il aime beaucoup, mais qui est moins belle qu'à 20 ans et qui a beaucoup de tentations, eh bien, le fait de trouver déraisonnable d'aller voir une fille de 25 ans à 60, ça c'est du droit naturel. Ensuite, qu'il veuille lutter contre cet instinct naturel, qu'il a aidé à trouver très belle son épouse et à l'épouser, mais qui là est en porte-à-faux à 60 ans hein, pour une fille de 25, eh bien, ce combat intérieur, c'est de la pureté. Et donc, c'est un encouragement à être vrai, pas seulement à la manière des stoïciens et des épicuriens, parce que contrairement à ce qu'on pense, les épicuriens, eux, justement, condamneraient un homme de 60 ans d'aller avec une fille de 25 en disant c'est déréglé, c'est déséquilibré, ça va pas, c'est plus le moment. Un vrai épicurien, c'est celui qui va manger des choses raffinées, mais pas de manière excessive, au point d'être malade. C'est celui qui va apprécier les plaisirs de la vie avec modération, l'épicurien. Le stoïcien va être plus sévère pour exercer sa volonté. Et alors ceux qui sont débauchés et libidineux et dans les orgies, c'est les
hédonistes, non ?
Les hédonistes.
Les cyniques.
Les cyniques, c'est encore autre chose. C'est une philosophie. Et qui vont considérer que le péché est, de toute façon, c'est physiologique. Quoi. Donc ils peuvent coucher avec tout le monde. Ils disent, bon, de toute façon, c'est pas moi qui pêche, c'est mon corps qui... Chez les cathares, il y avait ce genre de choses. C'est-à-dire qu'ils disaient, de toute façon, l'animal fait ce qu'il veut, notre âme est au-dessus. Donc faites ce que vous voulez, de toute façon, c'est animal. Il y a quand même... Non, il n'y a pas de nature humaine. La nature humaine, c'est une invention du mauvais Dieu, du méchant Dieu. Le vrai Dieu, enfin le gentil Dieu, lui... n'a créé que des purs esprits, et c'est le méchant Dieu qui les a emprisonnés dans des corps d'animaux. Donc, laissez le corps animal faire sa vie, vous, votre esprit, est au-dessus. Waouh, c'est le manichéisme cathare. Hein. C'était une secte absolument terrible. Pour des raisons politiques, il y a eu une guerre, mais en soi, c'était une religion très sectaire. Qui interdisait le mariage et qui interdisait d'avoir des enfants. Et c'est jamais précisé dans les... Quand on fustige les guerres de l'époque, de manière très anachronique d'ailleurs, puisque on ne sait pas quels étaient les intérêts entre les uns et les autres pour se faire la guerre à ce moment-là. Et s'appuyer sur des théories, pour rompre avec tel ou tel seigneur qui restait catholique. C'est ce qui s'est passé un peu avec le protestantisme. Vous avez des princes allemands qui sont devenus protestants pour pouvoir rompre avec leur seigneur supérieur ou récupérer des biens qui n'étaient pas touchés par l'expérience spirituelle de Luther ou de Calvin. Donc, bienheureux les cœurs purs, vous voyez, ce ne sont pas seulement ceux qui n'ont aucune tentation et qui sont paisibles dans leur sensualité. Ils verront Dieu. Sainte Marie-Madeleine, elle voit Dieu. Bienheureux les pacifiques, car ils seront appelés enfants de Dieu. Les pacifiques, c'est comme les doux, mais au sens très fort du terme. C'est ceux qui ne se battent pas. C'est, par exemple, moi, à chaque fois que je vois un musulman de nos jours, je leur dis, surtout, ne finalement, laissez-vous faire, laissez-vous tuer dans les guerres qu'il y a là-bas, parce qu'en fait, on instrumentalise actuellement la violence musulmane. Et, en tout cas, défendez-vous peut-être, mais surtout, n'attaquez jamais, jamais, jamais. Alors, vous me dites, mais alors c'est l'objection de conscience. Non, on défend nos familles, notre territoire, mais il ne faut pas... oui, mais il y a des guerres de prévention, tout ça. Mais bienheureux les pacifiques. Hein. Si en 14-18, on avait accepté les propositions de paix du bienheureux... Comment il s'appelle ? Comment ?
Charles
Ier. Hein, il y a l'impératrice Zita qui est vénérable, hein, mais son mari a été déclaré bienheureux. Hein. Il était empereur d'Autriche-Hongrie.
Et le pape Benoît XV aussi a fait tout ce qu'il a pu.
Bien sûr. Mais il est tellement humble qu'il a dû demander à Dieu de ne pas être béatifié. D'ailleurs, la statue de Benoît XV dans la basilique du Vatican est extraordinaire. Et c'est tout lui. Vous voyez, c'est un homme... On le voit à genoux, les yeux fermés, recueillis, d'une humilité extraordinaire. Lui qui a tant souffert de voir ce massacre. Hein. Dans la prophétie de Saint Malachie, sa devise est « religio depopulata », hein, la religion dépeuplée. Bienheureux ceux qui souffrent persécution pour la justice, parce que le royaume des cieux est à eux. Hein, c'est une précision particulière. On est attaqué parce qu'on défend la justice. C'est plus que d'avoir faim et soif pour la justice. C'est-à-dire que on est arrêté, persécuté, on ne peut plus ni acheter ni vendre, mesures vexatoires, constitution civile du clergé, guerre d'Espagne, loi de 1905, les religieuses et les religieux traînés par terre. Pour quitter leur école, leur couvent, leur monastère. À la Grande Chartreuse, vous aviez l'officier qui était là, et les soldats qui prenaient par les bras et les jambes, à quatre, les moines pour les sortir de la Grande Chartreuse. Hein. C'est quand même des scènes absolument délirantes. C'est injuste, c'est du vol. Ensuite, bien sûr, c'est une atteinte à ce que l'Église fait pour manifester l'amour de Dieu. Comme les hospices, les orphelinats qui ont été volés. Vous serez heureux lorsque les hommes vous haïront, vous maudiront et vous persécuteront lorsqu'ils vous sépareront. Eh bien, voyez-vous, lorsque nous refuserons la GPA, lorsqu'on nous refusera l'euthanasie, eh bien, une infirmière, un médecin vont être renvoyés. Quand un pharmacien refuse de donner la pilule, il est renvoyé. Il perd son emploi. Pour un seul médicament, enfin, c'est quand même pas un drame. On s'approche, vous voyez. Moi, si un jour deux demoiselles arrivent et disent « Nous voulons nous marier », je dis « Mais pourquoi vous n'êtes pas simplement amis ?» Pourquoi voulez-vous dire que vous êtes femme et femme, voyez, et vivez chastement, surmontez cette tentation, on me mettra en taule. Parce que je serai méchant et ennemi des droits de l'homme. Et ça arrivera d'ici 10-12 ans. Ça, J'en suis, enfin, c'est une opinion chez moi qui est certaine. Elle peut faire sourire, mais je peux vous assurer que on sera mis en tôle parce que on refusera toute cette, comment dire, cette idéologie libertaire. On finira par nous interdire. On verra bien. Réjouissez-vous en ce jour, être assaillé de joie, car vous m'apporterez des oranges. Car votre récompense, j'aime beaucoup les oranges, donc car votre récompense sera grande dans les cieux. C'est ainsi que leurs pères ont persécuté les prophètes qui furent avant vous. Alors ensuite viennent les malédictions. Alors là, ça rigole moins. Saint Luc, chapitre 6, verset 24-26. Malheur à vous, riches, parce que vous avez dès maintenant votre consolation.